Un transistor, ça fait passer le courant et ça amplifie le signal. Un transistor, c'est un corps conducteur. Ça module, ça dérive, ça convertit. Transistor, c'est une série de rencontres publiques proposées par l'Atelier de Paris, Centre de développement chorégraphique national, conçu et animé par Mathieu Bouvier et diffusé sur la web radio R22 Tout Monde. Artistes et chercheuses sont invités à penser ensemble les transformations de notre époque à partir de leur savoir situé. L'art, les transitions, les résistances, les altérations. Transistor, c'est forcément transitif, façon de sentir et d'agir avec, ensemble, par les milieux. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 15 mars 2022, il est 19h. Nous sommes à la médiathèque de la Canopée et la Fontaine, une médiathèque qui fait partie des pôles sourds des bibliothèques de la ville de Paris. Notre rencontre ce soir précède d'une semaine la présentation à l'Atelier de Paris d'un temps fort jeune public LSF langue des signes français, avec notamment la programmation de 3 spectacles, Le Lapin et la Reine de Nina Vallon, My Petit Pogo de Fabrice Ramalingam et La Bande à Laura de Gaël Bourges. Je suis entouré ce soir de Nina Vallon, chorégraphe, autrice de la pièce Le Lapin et la Reine, un spectacle jeune public créé donc avec des artistes de la culture sourde, dont la première aura lieu le 26 mars à l'Atelier de Paris, la semaine prochaine. Je suis également entouré de Jennifer Lesage-David et Emmanuelle Laborie, co-directrice de l'IVT, International Visual Theatre, ce célèbre théâtre parisien de la culture sourde qui est coproducteur de la création de Nina Vallon. À nos côtés, Lisa Martin, comédienne, qui joue dans la pièce le rôle de la reine. Julie Seidlitz et Florine Archambault seront ce soir nos interprètes. Emmanuelle Laborie, dans votre livre « Le cri de la mouette », vous parlez de la langue des signes comme d'une danse des mots dans l'espace. Les affinités entre la danse et la langue des signes sont nombreuses. Elles inventent des lexiques de figures gestuelles, des grammaires spatiales, des logiques expressives. Mais elles sont pourtant incomparables. La langue des signes est une langue officielle de la République française, une culture à part entière. La danse est certes, elle aussi, une culture du geste, mais peut-on dire qu'elle est un langage du corps ? Comment la danse peut-elle rencontrer la langue des signes ? Sur quel terrain d'entente ? C'est la question que nous allons nous poser ensemble, une heure durant, à la rencontre de deux cultures du geste. Le lapin et la reine. Le lapin et la reine, c'est l'histoire d'une amitié entre un mystérieux lapin blanc et une reine en kimono. Librement inspiré de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, ce spectacle, qui aborde avec humour et sensibilité la question de la différence, nous emmène dans un monde magique et mouvant, où la danse se mêle à une histoire qui se raconte en langue des signes, en musique, en lumière et en mouvement. Je voudrais ouvrir notre échange avec une question adressée d'abord à Emmanuelle et Jennifer, co-directrices de l'IVT et coproductrices du projet chorégraphique de Nina Vallon. Je voudrais vous demander, quand vous avez reçu Nina et son projet à l'IVT, quelle a été votre réaction ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la démarche d'une chorégraphe qui va à la rencontre de la langue des signes ?
Alors, honnêtement, toutes les deux, avec Jennifer, dit Emmanuel, on travaille ensemble, on est co-directrice, effectivement, d'IVT, International Visual Theatre, qui est un centre ressources concernant la culture sourde. Donc, effectivement, on reçoit énormément de projets, de personnes, d'autres compagnies qui souhaitent notre expertise et notre accompagnement. Et donc, c'est notre rôle à Jennifer et moi. Donc, on reçoit beaucoup, beaucoup de projets, il faut forcément les choisir. Alors, pourquoi on a choisi le projet Nina Vallon ? Déjà, quand on a reçu le dossier, ça nous a vraiment beaucoup intéressés parce que c'était une interdisciplinarité entre la chorégraphie, la danse, mais pas seulement. C'est aussi l'idée de donner une vraie place à une artiste sourde. Et ça, c'est vraiment au cœur de notre philosophie à IVT. Et avec Jennifer, on s'est dit que c'était important d'accompagner ce projet. Ça n'est pas juste mettre de la langue des signes, saupoudrer la langue des signes par coptée, non. C'est donner une vraie place à cette langue, une vraie place à une comédienne, une artiste sourde. C'est pas juste la langue des signes comme une jolie fleur, comme un objet de décoration. Non, c'est vraiment tout ce qui fait le spectacle, la terre, les racines, le pot, l'engrais. Finalement, c'est ça aussi la langue des signes dans la pièce de Nina. Alors, il a fallu qu'on se rencontre, évidemment. Et puis, évidemment, le premier rendez-vous était bizarre parce qu'il était sur Zoom. Tu te rappelles, Nina ? Évidemment, puisque c'était la crise sanitaire. Et donc, nous nous sommes rencontrés sur Zoom. Et Nina avait un sourire incroyable, d'où son nom signe aujourd'hui, qui est donc Grand Sourire. Donc, on a beaucoup échangé avec Jennifer. On a beaucoup écouté aussi Nina, à savoir quel était un peu son point de vue et sa philosophie du projet. Et c'est vrai qu'elle ne savait pas, elle ne connaissait pas d'artiste sourd qui pourrait intégrer son spectacle, même si elle en avait l'envie. Donc, on s'est dit que c'était un projet intéressant pour cet accompagnement. Parce qu'on se dit que souvent, les personnes qui ne connaissent pas la langue des signes, on s'est rendu compte que c'était peut-être pour eux une jolie chose, alors que non. C'est une grammaire, une structure, et c'est effectivement un langage du corps que Nina a compris en adéquation avec la danse, effectivement, mais aussi une vraie langue et quelque chose de réel. Et c'est pour ça qu'on a choisi de l'accompagner et qu'on est là aujourd'hui.
Oui, en complément, je peux dire que... En plus, Nina, elle a plongé dedans, puisqu'elle apprend la langue des signes. Donc, elle signe avec Lisa. D'ailleurs, tout l'atelier de Paris se forme. Enfin, on a déjà fait une sensibilisation. Donc, il y a un vrai projet qui accompagne tout ça. Et à l'occasion des castings, elle a même eu un coup de cœur avec une marionnettiste sourde. Donc, vraiment, elle plonge dans la culture sourde. Et comme l'a dit Emmanuel, la langue des signes dans une création, ça peut avoir différentes places. Il y en a qui vont l'apprendre comme un outil d'accessibilité. Il y en a d'autres qui vont la trouver esthétique. Et Nina, elle va au-delà de tout ça. Elle s'intéresse à la culture, elle s'intéresse aux artistes sourds. Et du coup, elle se nourrit de tout ça et elle travaille dans une vraie mixité. Et c'est ça qui est important pour nous.
Nina, à toi de nous expliquer, si tu veux bien, d'où vient ton désir de la rencontre, de cette rencontre avec la culture sourde. Comment tu l'approches ?
Alors, la première fois que j'ai... Enfin, je savais que les langues des signes existaient, mais je n'avais jamais rencontré de personnes sourdes et ni avait été en contact avec la langue des signes française ou d'autres pays. Et puis en 2015, je faisais mes études à Toulouse. Là, j'avais repris des études après plusieurs années habitant en Allemagne. Et alors, j'ai une collègue qui écrit un mémoire sur la pluridisciplinarité, la transversalité de la langue des signes et son lien avec les différentes disciplines artistiques. Et là, je suis bouche bée, je me dis, mais c'est un truc de ouf, c'est une langue incroyable, comment j'ai pu faire pour pas la rencontrer plus tôt, quoi. Et dernièrement, je me suis d'ailleurs fait la réflexion, et j'en parlais avec Julie tout à l'heure à la répétition, parce qu'il faut dire qu'on vient d'arriver, on a travaillé toute la journée à l'atelier de Paris, on a répété toute la journée, et on est arrivé là, donc on est un peu, on est un petit peu fatigué, donc on va essayer d'être le plus clair possible. Mais voilà, donc je disais à Julie, en fait, je pense que si j'avais pu grandir avec la langue des signes comme ma langue maternelle, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de facilité à m'exprimer, à exprimer mes pensées, parce que je pense que la manière dont mes pensées se forment dans ma tête, c'est très mouvant, c'est très spatialisé, et c'est pas pour rien que je suis chorégraphe. Et je pense que si j'avais appris la langue des signes étant enfant, je pense que j'aurais pu m'exprimer beaucoup mieux qu'en français. J'ai quand même eu la chance de grandir avec deux cultures. Ma mère est brésilienne, mon père est suisse, donc j'ai déjà deux cultures, j'ai deux manières de pouvoir m'exprimer. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré la langue des signes, j'ai eu vraiment un choc, vraiment un coup de cœur, voilà. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour aller à la rencontre de cette langue et à la rencontre de cette culture. Mais ça m'a pris quelques temps. Voilà, les choses, elles prennent du temps. C'est pas d'un coup, vous avez un flash et les choses se passent tout de suite. Ça vient avec des rencontres. Ça vient, voilà, avec le temps. Et donc, il y a deux, trois ans, je réfléchissais à faire un projet jeune public. Et puis, donc, je me dis, projet jeune public. Moi, j'adore raconter des histoires. Je pense que je suis encore un enfant quand je vais voir des spectacles. Je suis comme ça. Waouh, waouh. Je me dis, bon, bah, pourquoi pas faire un spectacle pour les enfants? Et je me dis, bah, en fait, c'est l'occasion. Ça pourrait être chouette de faire un spectacle qui pourrait s'adresser autant à des enfants sourds qu'à des enfants entendants. Et donc, c'est parti de ça. Et donc, j'en parle avec Marie de Lombardon, qui travaille aux relations publiques à l'Atelier de Paris. Et je lui dis, écoute Marie, j'ai cette idée, j'aimerais bien faire voilà, un spectacle inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, pas raconter l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais voilà, de m'en inspirer, puisque c'est un livre qui m'avait marqué. Et j'aime bien un peu cette folie, Alice, il lui arrive plein de trucs, et en fait, elle ne se pose pas trop de questions, elle y va, elle suit le lapin, pourquoi? Bon, je ne sais pas, j'y vais. Je me dis, c'est chouette comme histoire, mais je vais m'inspirer de ça. Et j'en parle avec Marie, et Marie me dit, ah, mais c'est incroyable, tu sais, Nina, moi j'ai travaillé à IVT, il faut absolument que tu rencontres Emmanuel, et voilà, de fil en aiguille, ben, comme Emmanuel a déjà raconté, voilà, je l'ai rencontré pour la première fois sur Zoom, et puis j'avais déjà, du coup, j'étais déjà allée à IVT, je m'étais inscrite pour faire, donc je me suis dit, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je m'inscrive et que j'aille prendre des cours de langue des signes, il faut que je me forme, il faut que je comprenne ce que c'est que de parler cette langue, de voir quelque chose, voilà, comme disait Emmanuel, les gens voient la langue des signes, ils disent, waouh, c'est beau, c'est joli, mais qu'est-ce que ça fait physiquement? Moi, en fait, la première fois que j'ai commencé à signer, donc je copiais, j'ai eu une émotion tellement forte, et d'ailleurs, souvent, on est un peu l'équipe de la compagnie des pleurnicheuses, on pleure tout le temps, donc voilà, je m'en fous, on pleure, voilà. Parce que, en fait, ça m'amène beaucoup d'émotions, et je me dis, en fait, c'est un peu frustrant aujourd'hui, parce que je ne peux pas signer comme j'aimerais, parce que c'est une langue tellement complexe, d'une subtilité, vous pouvez, sans ceux qui ne signent pas, ne peuvent pas comprendre à quel point c'est subtil, et... Donc, ce que je disais, voilà. Donc, je m'inscris à IVT pour faire une formation langue des signes. Je commence à. Donc, la première personne sourde que j'ai rencontrée, c'est Winona. C'était ma prof, voilà. Et donc, je la rencontre le premier jour, voilà. Winona, ouais. Voilà. Et donc, j'avais déjà commencé à faire des cours dans l'anexie à IVT. J'étais très timide, voilà. Et puis ensuite, je rencontre Jennifer, Emmanuel, et puis on. Le projet se met en route petit à petit. Et donc, effectivement, c'est grâce aussi au casting qu'on a organisé ensemble que j'ai pu rencontrer Lisa, que j'ai pu rencontrer Émilie, qui est là aussi ce soir et qui est marionnettiste. Mathieu, je m'éloigne, je développe,
tout,
ça
tout.
Va
Pas du tout.
Il faut me cadrer. Hein. Voilà, donc.
Excuse-moi, il y a Sabrina Dallot aussi que tu as rencontrée, qui est coda, qui est artiste aussi dans son spectacle. Oui, tout voilà. Ça, c'est important aussi parce que c'est aussi sa langue maternelle et pour autant elle est entendante.
Oui, voilà, oui, c'est intéressant. Moi, du coup, j'ai rencontré Sabrina avant Lisa, puisque Sabrina, je l'ai rencontrée grâce à une amie danseuse dans la compagnie. J'aimerais bien tourner, mais j'arrive pas. Je sais pas comment faire. Voilà, pardon. Pardon. Et donc Sabrina Dallot, qui est comédienne, danseuse, coda, donc fille de parents sourds, donc la langue des signes est sa langue maternelle. Donc elle a grandi aussi avec deux langues et deux cultures. Donc elle parle français et elle signe. Et donc elle joue donc le rôle du lapin dans le spectacle, aux côtés de Lisa Martin, qui joue le rôle de la reine.
Alors, puisque tu évoques les personnages du spectacle, on pourrait peut-être un petit peu rentrer dans l'intrigue sans tout en dévoiler, bien sûr. Parce que pour le peu que j'ai pu en voir, et d'après les récits que tu m'en as fait, j'ai bien senti qu'il ne s'agissait pas pour toi de faire un projet ni pédagogique, ni inclusif, ni thématique sur la question de la surdité. Mais que tu allais plutôt t'attacher, non pas à une déficience de l'un ou de l'autre des personnages dans leur rapport, mais à leur différence. Et leur différence s'incarne pas sur leur mode moins sur leur mode de communication que sur leur façon d'agir et de penser, d'être au monde, à l'espace. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette façon dont les personnages trouvent un terrain d'entente qui est largement au-delà de la question des langues qu'ils pratiquent l'un et l'autre ?
Oui, c'est vrai que du coup, je travaille avec Lisa, qui est une comédienne danseuse sourde. Et on raconte l'histoire donc, d'une petite fille qui est sourde et qui signe. Mais le sujet du spectacle, ce n'est pas sa surdité. Et tout comme le sujet du spectacle n'est pas la langue des signes. Donc, il y a plusieurs. Voilà, elle est sourde, elle signe. Bon, voilà, c'est une donnée comme une autre, en fait. Et donc, cette petite fille, elle. Elle aime bien les règles, parce que je voulais aussi travailler avec ce paradoxe de l'enfant qui pratique une discipline artistique ou sportive, qui demande beaucoup d'être assez exigeant avec soi-même depuis qu'on est tout petit. Et donc, c'est des enfants qui à la fois ont besoin des règles, voilà, qui peuvent être aussi assez dures avec eux-mêmes. Et donc ça, elle a ça en elle, la reine, puisque elle pratique les jeux d'échecs. C'est une championne d'échecs, donc il faut les règles, il faut bien faire. Et puis à côté de ça, elle va rencontrer donc le lapin. Et donc le lapin, c'est un peu tout le contraire. Et lui, il veut s'amuser en fait. Et en fait, parce qu'en m'inspirant d'Alice au Pays des Merveilles, je ne voulais pas que en fait, Alice, donc la reine, hein, elle soit toute seule dans ses aventures. Je voulais qu'elle vive des aventures avec le lapin. Donc, ils soient tous les deux. Donc, je voulais développer un peu plus le personnage du lapin. Et en fait, je fais une petite parenthèse, parce que quand j'étais à IVT en résidence il y a 3 semaines, j'ai retrouvé, en cherchant une vidéo pour le spectacle, des vidéos de ma petite sœur et moi quand on était petites. En fait, mon père nous a beaucoup filmés, et en fait, j'ai retrouvé ces vidéos. Et donc, il y avait Nina et Annie. Donc, ma sœur s'appelle Annie. Hein. Donc, heureusement que maintenant, j'ai mon signe Nina pour me différencier un peu, parce que Annie et Nina, voilà. Bon. Et donc, c'est Annie et Nina, les aventures de Annie et Nina. Donc, Annie et Nina jouent dans la boue. Annie et Nina font du tricycle. Annie et Nina... Et donc, il y a plein de vidéos comme ça, et on nous voit jouer, et mon père n'intervient jamais. Et on fait plein de choses ensemble. Et en fait, je me dis, en fait, le lapin et la reine, c'est un peu comme voilà, ma petite sœur et moi quand on était petites. Et donc, moi, j'étais un peu plus âgée, donc je voulais faire les choses bien. Et donc, ayant commencé la danse très, très tôt, avec ces disciplines que demande la danse et le piano aussi. Et j'étais aussi plus âgée, donc un peu voilà, le complexe de l'aîné qui veut bien faire, qui est toujours avec les adultes. Qui veut... Donc, je voulais jouer avec ma sœur, mais je voulais qu'elle joue bien, qu'elle fasse les choses correctement. Je disais, non, Annie, on fait comme ça, on fait comme ça. Et elle me suivait partout parce qu'elle était contente, elle voulait s'amuser, elle voulait jouer. Mais au bout d'un moment, elle foutait un peu le bordel aussi. Parce que en fait, moi, je voulais un peu trop bien faire, et elle. Et en fait, le lapin et la reine, c'est un peu. Je me suis rendu compte que, en fait, j'invente pas grand-chose. Je me souviens en fait de. Enfin voilà, de ce qui s'est passé. Et ils ont un peu ça, ces deux personnages, donc ils sont très différents. En même temps, ils ont besoin de l'un de l'autre parce que la reine, ben en fait, elle a quand même envie de s'amuser. C'est comme un enfant, en fait, même si elle a toutes ces caractéristiques-là qui sont plutôt associées à un adulte. Et donc, son ami, le lapin, comme moi, ma petite sœur, bah, elle me ramène vers l'enfance, me ramène vers le jeu. Et donc, ce que je trouvais chouette, c'est qu'elles puissent toutes les deux vivre des choses ensemble. Et c'est comme quand on part en voyage, bah, en fait, on vit peut-être, il nous arrive les mêmes choses, mais on les vit de manière différente. Et donc, il leur arrive les mêmes choses, mais elles font chacune un voyage différent. Et donc, si elles en parlent après la fin, ben elle va raconter quelque chose, elle va rentrer autre chose, mais c'est leur manière de voir le monde qui va faire ce voyage particulier. Et oui, la reine, elle a aussi quelque chose un petit peu de, tu sais, de Novecento. C'est un personnage de Barrico, c'est un enfant qui est né sur un bateau. Et donc, il n'est jamais sorti de ce bateau, et donc, lui, tout ce qui sort de la limite, ça lui fait peur. Et la reine, elle est un peu comme ça, elle aime bien... savoir où ça finit, savoir où ça commence, savoir de quelle couleur, qui fait quoi. Alors que le lapin, lui, il veut. Il vit dans un monde où, en fait, il y a des couleurs qui bougent, et puis tout est un peu mouvant, mais tout seul, il se perd un peu dans son délire. Donc, grâce à la reine, comme ils sont ensemble, ben, elle lui donne la main, elle dit on va faire ça, lui, il dit on va faire ça, et puis ils créent ensemble leurs propres règles, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin d'avoir que des règles qui sont dictées de l'extérieur, mais qu'ensemble, ils peuvent écrire leur propre manière de fonctionner. Mmh. Et donc, voilà.
Oui. Très bien, très très bien. Ils inventent ensemble un terrain d'entente, une sorte d'intelligence par le jeu en commun. J'aimerais maintenant qu'on parle du terrain d'entente, moins du côté des personnages, mais du côté des acteurs, actrices du projet. Donc peut-être donner la parole à Lisa pour lui demander comment se passe le travail artistique quand il s'agit de trouver un terrain d'entente précisément entre différents modes d'expression. Et je ne parle pas seulement des modes de communication, je parle aussi du travail du geste, du corps, de l'espace, des objets, de la musique, de la lumière, enfin de tout ce qui compose l'univers chorégraphique.
Bien, déjà, première chose, j'ai envie de dire qu'on a vraiment une super équipe, grâce à Nina qui apprend la langue des signes, et grâce aussi à Ariel qui apprend aussi la langue des signes. Donc vraiment, déjà, on a déjà une équipe en or. Donc ça, c'est formidable, c'est très confortable. On n'a pas ce côté, bon, bah allez, on va ramer, il faut s'adapter, il faut qu'elle s'adapte. Non, c'est très confortable, vraiment, parce que j'arrive à les comprendre, elles arrivent à me comprendre. Bien évidemment, même si elles sont pas natives, c'est pas grave, mais quand même, elles font un effort incroyable et on arrive à communiquer très bien. Ça marche, ça fonctionne. Vraiment, je me rappelle les premières fois qu'on a répété très rapidement, on s'est très bien entendu, toutes les quatre. On s'est entendu aussi avec Sabrina qui s'est signée, évidemment. Mais on s'est de suite très bien entendu. Et puis après, bien sûr, on a rajouté la lumière, des personnes qui ne savent pas signer, mais ce n'est pas grave. Il y a toujours un minimum de, toute façon, de patience. Moi aussi, je suis patient. Tout le monde est patient, en fait. Et puis, au niveau du mouvement, du travail, tout ce qui est mouvement et langue des signes, ça n'a rien à voir. Moi, je suis comédienne au départ. Je ne suis pas danseuse. Donc la danse, oui, je danse chez moi, à la maison, dans des fêtes, avec les copains, ça certes, mais je connais pas la danse. J'ai fait des cours un petit peu de danse, mais bon, rien de dingue. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée dans ce monde-là, de la chorégraphie, de la danse, déjà aussi merci à Nina pour sa patience, pour tout ce qu'elle m'a montré, pour m'expliquer le vocabulaire de base, les outils, la chorégraphie, vraiment, ça m'a énormément apporté. Et ça n'a rien à voir avec la langue des signes, ça n'a rien à voir. Bien sûr que chaque domaine a ses règles et elles sont complémentaires, c'est complémentaire. La langue des signes et la danse ne sont pas ennemies, elles sont complémentaires, vraiment. C'est vrai que je trouve intéressant en fait le processus en fait de création de Nina, parce qu'elle travaille vraiment sans musique. Et ça, je me dis, pour elle, ça ne doit pas être facile, parce que, ben, en tant qu'entendante, dans la création, la musique existe, la musique a une place, elle est là, elle fait partie en fait, de la création en même temps. Et là, désormais, elle travaille sans musique, elle trouve d'abord vraiment la musicalité visuelle, finalement, avec le corps, avec les lumières, avec le mouvement, et c'est cette musicalité-là qui ensuite fera naître la musique. Et là, je dis, waouh, bravo, mais grand chapeau, vraiment, c'est extraordinaire, en fait. Parce que souvent, les entendants s'accrochent à cette musique. On peur, en fait, on peur du vide, du silence. Ils sont amputés, finalement, quand la musique n'est pas là. Et là, au contraire, dans cette habitude aussi de création. Donc là, franchement, chapeau d'avoir osé tout ça. Et là, j'adore. J'adore ce qu'elle fait, vraiment. Et c'est vrai que pour le public aussi, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai que les entendants ont leurs habitudes, en fait. Inconsciemment, la musique est toujours là, le son est toujours là pour les guider. Et donc, un spectacle visuel, on se dit, ben oui, mais bon, finalement, on s'ennuie ou quoi que ce soit. Non, c'est bon, parce que parfois, il y a la musique, en fait, qui va aider les entendants, qui va donner aussi ce rythme, qui va donner un peu la dramaturgie, qui va donner les clés aussi de compréhension. Et donc, il y a des choses qui ne passent pas chez les sourds, si trop de choses passent par le son. Donc c'est vrai que parfois on se dit c'est visuel, c'est bon, ça suffit. Ben non, parfois c'est plat parce qu'il y a trop de choses qui se passent par le son et on ne s'en rend pas compte. Et Nina, elle s'est rendue compte de tout ça. Donc elle a un parcours de création vraiment incroyable. Donc avec Jennifer aussi, toutes les deux, on ne s'est pas trompé en tout cas. On ne s'est pas trompé en la choisissant. On a eu un très bon feeling.
Alors précisément au sujet de ce déplacement, quand je suis venu voir une répétition il y a 2 semaines, je crois, à l'Étoile du Nord, vous étiez justement en train de composer un rap. Le rap de la reine, je crois, c'est ça ?
Oui.
Et alors, j'étais dans la salle à vous observer travailler, et je vous ai observé composer un rap en cherchant les gestes pour signer le rap ou en cherchant les signes pour gester ce rap. Je ne savais pas exactement ce que vous étiez en train de faire. Est-ce que vous étiez en train de traduire en langue des signes un rap ? Est-ce que vous étiez en train d'inventer une sorte d'invention poétique de votre cru ? Ça m'a permis de découvrir l'existence du chant signe, entre autres. Voilà, j'introduis ce rap et je vous demande de nous le montrer.
Avant qu'on le montre, je vais préciser qu'on est en répétition, c'est une étape de travail, voilà, et que demain, justement, Emmanuel vient travailler avec nous sur ce rap. Donc on est au tout début, j'en parlerai un petit peu après, donc on va vous montrer un peu où on en est. Voilà. Et, ah oui, Ariel, elle l'a... En plus, on l'a écrit il n'y a pas longtemps, donc si jamais on a besoin des paroles... Voilà, là vous assistez à la répétition du lapin et la reine, voilà.
Je
Moi c'est la reine, attention à toi quand je joue, je gagne des places un pion. Vas-y t'inquiète pas, moi je te mangerai pas. Pion blanc en F3, pion noir en E5, pion blanc en G4, dame noire en H4. Oups, échec et mat. En garde, l'ouverture des blancs sera fatale. Mat du berger, la mator se fait toujours piéger. Mais qui va là? Une dame qu'on promène, faut pas faire ça. Les gambits c'est du passé, attends laisse-moi te montrer. Un lapin cambrioleur avec une lampe frontale en configuration moufle, il est plutôt pas mal. Il danse tout le temps, c'est plus fort que lui. C'est dans sa peau, vous prendrez bien une tasse de thé qu'il sort de son chapeau. Part à l'aventure de l'autre côté. Au pays des damiers, faudra pas se tromper. Tout est chorégraphié, vous l'avez compris. Mais faut pas s'énerver, sinon tout est fini. Il y a une partie qui va un petit peu vite là, donc je l'ai quand même fait en rythme, mais voilà.
Merci Nina, merci Lisa.
Work in progress.
Merci Ariel.
Notre, mon binôme Ariel Chauvel-Lévy, voilà, qui est toujours là avec ce qu'il faut pour aider. Merci.
Alors pour les personnes qui, comme moi, il y a encore quelques semaines, ignoraient tout du chansigne, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà ce rap, comment il fonctionne entre vous, et puis ensuite peut-être plus généralement, qu'est-ce que c'est que cette poétique du geste, le chansigne?
J'explique, enfin, chacune peut expliquer, je pense. En fait, le chansigne, c'est deux choses. Déjà, il y a des chansons d'entendant, en fait, hein, qui sont traduites en langue des signes, mais tout en suivant et en respectant le rythme, les mots-clés, etc. Et il y a aussi des créations qui se font directement en langue des signes. Et c'est vraiment des jeux de signes, des clins d'œil aussi qui sont, et un rythme propre à la langue des signes. Donc, il y a les deux formes qui sont possibles. Donc il y a du rap, certes, mais il y a aussi tout type de chansons, tout type de rythme. Et donc au niveau du corps, on s'adapte. Parce qu'effectivement, quand c'est du rap, on va avoir une certaine gestuelle. Et quand c'est un autre style, on va avoir encore autre chose, quoi.
Par rapport aux chansignes j'ai rien à ajouter. C'est juste que, effectivement... Il y a plusieurs arts sourds, donc il y a le chansigne, il y a le VV, il y a la corésigne. La langue des signes, elle est très très riche et souvent les néophytes, ils vont penser qu'un signe égale un mot, alors que pas du tout. La langue des signes, c'est une langue en trois dimensions, c'est un tableau qui s'anime. Elle a plusieurs paramètres. Le changement d'un seul de ces paramètres change le sens, donc c'est très subtil, c'est très riche, et dans ce tableau qui s'anime, il y a une multitude de sens qui tiennent un propos, et du coup, c'est une matière très très riche, et de là naissent les différents arts sourds, donc le chansigne, oui, ça, c'est la musicalité, donc c'est de la chanson, mais en langue des signes. Le VV, c'est plus une narration sans lexique, c'est une narration qui reprend un peu les codes du cinéma. Et la corésigne, c'est le signe qui va justement s'étendre dans l'espace, qui va vraiment où on va prendre un des paramètres et on va les tirer et on va pouvoir travailler comme ça une proposition corporelle. Ça va rejoindre la danse. Enfin voilà, il y a une richesse inouïe dans la langue des signes qui propose. Par rapport à la danse, ça apporte du sens aussi. C'est que quand il y a la langue des signes qui pénètre la danse parle du coup. Il y a du sens dans le propos de la danse.
Oui, c'est vrai qu'il y a une scène qu'on a travaillée aujourd'hui par exemple où elles jouent aux échecs sur un échiquier géant. Et donc en fait, les filles vont annoncer les pièces du jeu. Et puis ensuite, elles vont se déplacer, elles vont bouger. Donc en fait... Ça donne, enfin, du coup, c'est un mouvement, mais c'est aussi, ça a du sens, ouais. Et donc là, c'est vraiment mélangé. C'est ce que je voulais aussi dans le spectacle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des textes qui sont traduits en voix off, mais en fait, on essaie vraiment d'intégrer la langue des signes dans le spectacle. Il y a plein de stratégies différentes pour que ça soit, accessible, on va dire, au public, mais c'est pas une traduction directe. Et je voulais dire un truc par rapport à... Oui, là, et du coup, par rapport au rap, moi, j'ai écrit donc le rap, pour répondre à ta question. Donc, j'ai écrit par rapport aussi à l'histoire. Donc, ça raconte, ça résume un peu l'histoire. Voilà, c'est le rap de la reine. Mais en fait, là, on est en processus de l'adapter vraiment ensemble pour qu'en fait, ça soit plus dépendant du texte écrit et oral, mais que ça devienne vraiment... un chansigne. Et du coup, moi, j'ai fait une proposition à Lisa, et en fait, quand on fait des textes, on fait vraiment beaucoup d'allers-retours dans l'adaptation pour que, en fait, après, ça devienne quelque chose qui lui appartienne, en fait. Et oui, je voulais peut-être dire le lapin en configuration moufle, ceux qui signent donc savent que voilà, il y a des configurations en langue des signes. En fait, le lapin, c'est un truc peut-être que j'aurais pu dire avant, c'est que lui, il porte des moufles. Et en fait, pour moi, c'était un peu symboliquement pour dire il peut pas encore signer parfaitement tout, et donc il est voilà, en moufle et pendant tout le spectacle. Donc, mais il est plutôt pas mal, comme dirait la reine, ça va, il s'en sort plutôt bien. Et donc, c'est un petit lapin avec des moufles, voilà.
Et je voulais rajouter aussi en petite parenthèse ce rap en fait qu'elle m'a donné. Enfin, merci aussi à Sabrina en fait, parce qu'elle a aussi apporté des choses avec son point de vue. Et puis merci à Émilie aussi qui nous a aidés aussi en dernière minute. Donc on va voir aussi demain. Je pars avance. Merci Emmanuel pour le travail qu'elle fournira demain. Le chansigne, dit Emmanuel, en fait, c'est une forme artistique, une forme d'expression, vraiment un art hein, qui change en fait la musicalité sonore en musicalité visuelle. Parce que c'est une langue qui est en 3D, la langue des signes. Donc c'est le corps, c'est le visage, c'est les émotions, c'est aussi l'univers musical, tout ça en fait qui est retranscrit en langue des signes. Là vous avez vu un rap, mais on pourrait aussi très bien voir un opéra, ce serait encore autre chose, ce serait pas le même style bien évidemment. Hein. Là c'est très parlé, très scandé, donc il faut trouver ce rythme en fait, et on peut le trouver dans la langue des signes, et il faut s'adapter à chaque fois à ce rythme-là. Donc c'est vrai que c'est marrant, souvent les personnes se disent « Mais comment tu fais, en fait, pourvu que tu n'entends pas la musique, comment on pouvait faire des chansignes ?» Bah oui, mais on a tous en nous quelque chose, en fait. On a au cœur de nous, on a un cœur qui bat, on a un rythme, on a une pulsation, on a un cœur qui s'emballe aussi au rythme de la langue des signes, ou au contraire, un cœur qui ralentit, qui se détend, et ce rythme-là, il peut suivre aussi notre langue des signes. Chacun en nous, on a ça, on a cette musicalité en nous, finalement. Donc il faut la découvrir, juste, il faut la découvrir petit à petit.
Merci. Alors pour avancer un petit peu plus sur le terrain d'entente entre gestes et signes, entre danse et LSF, on aimerait vous faire entendre, enfin je dis on parce que c'est Nina qui m'a indiqué l'existence de ce film, un film de Laetitia Carton qui s'appelle « J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd », un film qui m'a littéralement bouleversé et dans lequel Laetitia Carton formule un superbe éloge de la langue des signes.
Quand je signe, je n'entends plus rien. Je ne suis plus que deux mains, mais surtout deux yeux, qui gobent le visage de l'autre, sur lequel je lis les expressions qui vont me permettre de comprendre ce que j'aperçois des mains. On ne regarde pas les mains de celui qui signe, on se connecte à son visage. La langue des signes, c'est le regard. Un entendant qui signe parfaitement, mais qui n'y met aucune expression, ne sera jamais compris par un sourd. Cette langue est d'une richesse insoupçonnable. Elle est si subtile, si nuancée, qu'un seul muscle du visage, une expression différente, peut changer le signe tristesse en sérieux, le signe parfait en utile. Cette langue n'a pas d'équivalent. C'est une langue qui me bouleverse. Elle parle d'ailleurs, elle parle de nos corps. Elle parle du fin fond des âges. Elle a quelque chose qui fait appel à ce qu'on a de plus primitif en nous.
Merci. Alors peut-être pour moi, pour ma gouverne et pour les personnes entendantes qui nous regarderont en vidéo dans quelques jours, est-ce que je peux vous demander de nous redonner la différence qu'évoque Laetitia Carton entre ces deux signes, tristesse et sérieux? Pour qu'on puisse en saisir la nuance.
Eh bien, écoutez, tristesse donc, et sérieux. Et oui, c'est le mouvement du visage qui fait. Après, les personnes qui sont loin à la caméra, je ne sais pas si ce sera visible, mais en tout cas, oui, c'est l'expression qui fait tout. La grammaire en langue des signes, on l'a dit, hein, l'expression du visage est fondamentale, le mouvement des sourcils est fondamental. C'est le même signe, pour autant, avec les configurations manuelles, le rythme, le mouvement, mais le visage change et c'est ça qui fait la différence. Et c'est aussi l'intonation, le contexte, hein, c'est comme le fameux « bonjour ». Il y a par exemple le fameux bonjour et le fameux merci, mais enfin comment vous faites ? C'est le même signe, comment vous faites pour le différencier ? Eh bien figurez-vous que non, le contexte, arriver en disant merci dans une pièce, c'est étonnant. Donc c'est plutôt bonjour qu'on dit, et quand on nous offre un café, c'est compliqué de répondre bonjour. Donc c'est simplement ça, et évidemment les expressions du visage qui font que. Mais bien sûr, c'est tout pareil en français. Certains mots sont homonymes. Le mot vert, par exemple, ne fait référence à rien si vous ne le mettez pas en contexte, évidemment, puisque ça peut être aller vers, un verre d'eau, un verre de terre. Moi aussi, je pourrais dire, écoutez, en français, comment faites-vous ? Enfin, c'est le même mot. Eh bien, pour autant, non, en langue des signes, il y a cette finesse-là aussi. Et effectivement, un mouvement du sourcil fait tout changer. Alors d'ailleurs, je me permets un petit ajout. C'est vrai que les personnes entendantes, on en parlait, hein, si elles signent en utilisant uniquement les bras, les mains, sans utiliser le corps, le mouvement du visage, ça n'est pas possible, puisque vraiment, je le disais, mais la position des yeux, par exemple, est déjà pertinente et signifiante en langue des signes. Déjà, le changement du mouvement du regard, regarder vers le haut, sur le côté, ou la labialisation également, donne aussi une indication en langue des signes. Donc ça fait partie de tout ça, ça fait partie de la langue. En fait, la ligne du temps, par exemple, peut se matérialiser de l'arrière au devant, du côté sur la gauche vers la droite, en verticale, en zénithale, etc. Il y a de tout. On peut même symboliser le temps de façon très différente, en baissant la tête, par exemple. Donc il ne faut pas penser mot égale signe, évidemment. Il faut aussi du temps pour s'imprégner tout ça. Mais il faut aussi, un petit conseil, lâcher complètement le français et la linéarité du français. Pour vraiment plonger dans la langue des signes sans en permanence chercher une traduction éventuelle entre un mot ou un signe. L'idée, c'est vraiment que c'est une langue spatiale, une langue visio-gestuelle, comme on dit. C'est ça, cette richesse-là. Et évidemment, il faut la construire comme une autre langue, mais c'est vrai que c'est une langue particulière, qui n'utilise pas la voix, tout simplement.
Merci. Un aperçu sur la grammaire spatiale, gestuelle de la langue des signes. Je voudrais vous proposer un petit focus sur ce que l'on pourrait trouver aussi de grammaire dans le geste dansé. Quand je vous regarde signer, je mesure mon analphabétisme. Je suis un analphabète du geste. Je vous vois penser et parler dans les gestes. Je vous vois former dans l'espace des figures pleines de signification. Je vois que vos mots dansent dans l'espace, mais je n'entends pas ce qu'ils disent. Je suis sourd à votre langue. Et pourtant, je pressens à quel point votre langue, comme tu le disais, Nina, tout à l'heure, pourrait m'être familière, combien elle pourrait m'être naturelle si je l'avais apprise dès la petite enfance. Si je l'avais apprise à cet âge où mon corps tout entier retentissait des impressions du monde et lui rendait ses expressions. Si je l'avais apprise à cet âge où j'entrais sans cesse en dialogue tonique avec les mouvements des êtres et des choses, avec les mouvements des gens, des animaux, des machines, des musiques. J'ai su imiter bien avant de parler. J'ai su danser bien avant de parler. J'aurais pu apprendre à signer avant de parler. J'aurais peut-être pu développer d'autres facultés de percevoir et de penser par les figures, par l'expression, par les mouvements, par l'espace. Heureusement, pour me consoler de cet analphabétisme gestuel, il y a la danse. Mais la danse est-elle un langage ? On dit souvent que la danse est le langage du corps. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. À de rares exceptions près, les danses ne produisent pas des discours. La danse serait plutôt une parole physique ou, comme le disait Antonin Artaud, une parole d'avant les mots. Quand je danse, mes gestes ne délivrent pas des significations. Pour autant, ils produisent du sens. J'articule des énoncés, je formule des propositions avec des phrasés, dynamiques, rythmiques. Je suis des logiques spatiales. Mes gestes donnent figure à des rythmes, ils donnent à voir des images de sensations. Quand je danse, le sens de mes gestes existe, mais ce n'est pas un sens linguistique. Et pourtant, si j'y regarde de plus près, je peux peut-être reconnaître à mes gestes une grammaire. Un homme a consacré sa vie à proposer une grammaire du geste dansé. Ce monsieur, c'est Rudolf Laban, un danseur allemand qui fut, dans la première moitié du XXe siècle, l'un des pères fondateurs de la culture chorégraphique moderne. Il est l'inventeur d'un fabuleux système de notation et d'analyse du mouvement, la cinétographie Laban. Monsieur Laban n'a jamais confondu la danse avec un langage du corps, mais il pensait que le mouvement dansé se faisait le signe de l'émotion. Et pour comprendre les articulations profondes de ce signe de l'émotion, il en a cherché une grammaire, une syntaxe, une sorte de sémiotique de l'effort. Car en effet, si la danse produit un sens expressif, ce n'est pas seulement avec ses formes, mais surtout selon ses forces, ses efforts. L'effort, c'est l'impulsion interne du mouvement, c'est son énergie, sa motivation et sa mélodie. Laban décrit les coordonnées de l'effort selon quatre facteurs. Le poids, l'espace, le temps et le flux. Et chacun de ces quatre facteurs est modulable en faisant varier deux paramètres. Le poids pourra être fort ou léger. L'espace pourra être direct ou indirect. Le temps pourra être soudain ou continu. Et le flux pourra être contrôlé ou libre. Pour ne pas être trop long, je vais rapidement décrire trois de ces facteurs sur les quatre. Le poids, l'espace, le temps. Le poids, c'est le facteur principal de l'effort, puisque tout mouvement est un transfert de poids. Lorsque le transfert de poids est effectué avec un effort ferme, selon les termes de Laban, un effort ferme, une énergie concentrée, et en vue d'un acte décisif, Laban parle d'un poids fort. Un coup de poing est un effort qui engage un poids fort. Une caresse, au contraire, appelle un poids léger. Dans la caresse, l'effort sera délié, souple, la main est suspendue, le mouvement est retenu, il est à l'écoute de sa sensation. Lorsque mon effort est engagé dans l'espace, c'est tantôt de façon directe, tantôt de façon indirecte ou flexible. Alors Laban dira que l'espace est direct quand le trajet du geste est linéaire, droit, économe. Quand l'espace d'une danseuse, par exemple, est direct, ses gestes sont clairs, dirigés, affirmés. L'espace sera indirect ou flexible, au contraire, quand le mouvement sera courbe, explorateur, erratique. L'espace flexible, par exemple, c'est celui de l'enfant qui divague ou de la feuille d'arbre qui tombe. Alors, un coup de poing, c'est un poids fort et un espace direct. Une caresse, c'est un poids léger et un espace indirect. Et l'effort s'engage encore dans le temps, soit de façon soudaine, soit de façon continue. Le temps est soudain lorsque le geste est vif, précipité, explosif, agressif, exubérant. Le temps soudain implique un effort en accélération, comme dans la surprise, dans l'urgence. Le temps est continu ou soutenu lorsque le geste est coulant, assuré, doux et lié comme un legato en musique. Lorsque le temps est contenu ou soutenu, l'effort décélère. Alors, le coup de poing, c'est un poids ferme, un espace direct et un temps soudain avec accélération. La caresse, c'est un poids léger, un espace direct et un temps soutenu avec décélération. Mais alors, si dans ma caresse, par exemple, je change un paramètre, je change le paramètre de l'espace, j'engage mon effort, par exemple, dans un espace direct. Je conserve un temps soutenu, un poids léger, un espace direct, je glisse. Je ne caresse plus, je glisse. Mon geste devient glissé. Temps soutenu, poids léger, espace direct, glissé. Maintenant, je change un autre paramètre, je change celui du temps. Je prends un temps soudain. L'espace est toujours direct, je glisse, le poids est léger, je glisse, mais le temps est soudain, je tapote. Tapoter égale espace direct, poids léger, temps soudain. D'autres exemples, fouetter. Fouetter, c'est un espace indirect, un temps soudain et un poids fort. Si je change le paramètre du poids, par exemple, je passe d'un poids fort à un poids léger, j'époussette. Un dernier exemple, le mouvement de torsion. Un espace indirect, un temps soutenu, un poids fort, etc. etc. Et à ces paramètres-là, il faut encore ajouter les paramètres du flux, les attitudes, le phrasé de l'effort, attitudes intérieures vis-à-vis du mouvement, etc. etc. Si bien qu'on obtient une grammaire extrêmement complexe pour décrire le geste, danser, c'est une grammaire parmi d'autres, elle ne cherche pas à s'imposer du tout à toutes les personnes qui dansent, mais elle permet de décrire les paramètres et les articulations du geste dansé. Elle a une complexité infinie, incomparable sans doute à celle de la langue des signes, mais ce n'est pas la même vocation. Le point commun entre ces deux grammaires du geste, c'est l'expressivité. Vous l'avez nommé tout à l'heure. La qualité expressive d'un geste dansé est tout entière dans ses modulations toniques, rythmiques, spatiales. Et ces qualités motrices agissent comme des symboles archaïques au sein même du geste. Ce sont les élans profonds de l'expression. Et ces symboles, on ne les lit pas comme des significations, mais on les reçoit comme du sens. Impression vive, affect de vitalité, image de sensation. C'est pourquoi, et je finirai là-dessus, je propose aux personnes entendantes qui m'écoutent, et aux autres peut-être aussi, de suivre un très ancien conseil qui nous remonte depuis le deuxième siècle de notre ère, sous la plume de Lucien de Samosate. Dans son texte « Éloge de la danse », dans lequel il écrit cette chose, « Il faut que le spectateur de danse comprenne le sourd et entende le geste silencieux. » Voilà, c'était un petit focus sur la grammaire du geste dansé et façon d'apporter aussi peut-être le témoignage des danseurs et de la culture du chorégraphique à la rencontre de la culture du geste spécifique qu'est la langue des signes. Voilà, Emmanuel, je me souviens, peut-être je vous donne la parole parce que je me souviens que dans notre première réunion, vous aviez évoqué une chose qui m'a beaucoup intéressée sur la question de la différence entre signification et sens. Vous avez déjà dit beaucoup de choses à ce sujet, mais vous m'aviez expliqué qu'il vous est arrivé d'adapter en langue des signes la poésie d'Henri Michaux. Or, la poésie d'Henri Michaux, elle est truffée d'inventions linguistiques. Elle sort même littéralement parfois de la langue française. Et donc, vous m'avez raconté comment vous aviez dû trouver une poétique propre à ce hiatus dans la langue.
Oui, effectivement. Henri Michaux est un poète qui joue en fait avec la langue et les mots. Et c'est vrai que quand moi j'ai lu ses écrits, je n'avais moi-même pas compris de quoi il s'agissait. Parce que c'est justement le projet poétique de Michaux. j'avais eu l'habitude, effectivement, des rimes, des strophes, des vers, qui étaient pour moi la poésie de la langue française. Donc là, on parlait encore de langue, hein, pas de danse. C'était vraiment les mots qui dansaient entre eux, entre guillemets. Et en fait, Henri Michaux casse toute cette rhétorique-là et cette poétique et vraiment fait se rencontrer les mots en images visuelles. Et c'est complètement bouleversant. Et moi, quand j'ai lu tout ça, je n'avais rien compris. Et je me suis dit que ça aurait été très compliqué de traduire en langue des signes. Et en fait, j'ai discuté avec la metteuse en scène. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait pris Michaud justement parce que on pensait d'ailleurs que Michaud à l'époque n'était pas un poète. Aujourd'hui, il est reconnu comme tel, mais à l'époque, on avait dit que c'était n'importe quoi, cette déconstruction poétique, et que ça n'avait aucun rapport avec de la poésie. Et c'est pour ça qu'elle l'avait choisi, parce que c'était ce jeu avec les images, ce jeu avec les mots, et c'est un parcours qui m'a beaucoup éclairée. Et donc moi, j'ai commencé à adapter en langue des signes, et effectivement, je me suis dit, bah, très bien, c'est du sens, je vais l'expliquer en langue des signes. Et donc, j'en suis devenue à faire une leçon de rhétorique sur ce que était Henri Michaud. Et en fait, non. Il a fallu que je bouleverse tout pour que, finalement, la langue des signes devienne très imagée, devienne un choc, devienne un entrelacement de choses et d'autres qui ne soient pas forcément du sens, mais pour permettre aux personnes entendantes comme sourdes d'avoir les mêmes émotions à l'écriture ou à l'écoute de ce texte. Après, c'était très personnel parce que moi-même, j'ai grandi dans une école oraliste. Et ça me passait complètement au-dessus de la tête, ce français. Alors que la langue des signes, c'était la langue de la compréhension. Et c'est vraiment ça. Je me suis vraiment dit que la langue des signes, c'est clair. C'est obligatoirement une langue claire, une langue qui doit expliquer. Et inconsciemment, je l'avais intégré, en fait, cet aspect. Et comme à l'école, on interdisait cette langue, et c'était vraiment l'oral qui était privilégié, c'était la langue, pour moi, de la compréhension de la langue des signes. Et donc, travailler sur Michaud en donnant une langue qui n'était pas à donner à comprendre, mais simplement donner à voir, donner à ressentir, ça a été très compliqué. Et c'est vraiment l'idée, un gros, gros travail a été fait pour donner des émotions, des images, des sentiments, des formes, des gestes, des attitudes, effectivement, qui étaient vraiment, par rapport à la poésie de Michaud, complètement en lien avec ce qu'il voulait dire. Vraiment ça, ce langage du corps qui, pour le coup, existait. Après, j'étais vraiment très, très, très craintive de proposer ça au public, que le public sourd me regarde en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai rien compris. » Et donc, après le spectacle, il y a, vous savez, des petites rencontres, on discute entre artistes, etc. Et on m'a dit « Non, mais j'ai eu beaucoup d'émotions, c'était intéressant, j'ai compris ce que tu voulais dire. » Et je me suis dit « Ah, t'as compris ce que je voulais dire. » Et donc, d'autres personnes qui ont compris autre chose, et d'autres personnes qui venaient me voir, finalement, avec une interprétation chacun et chacune très différente. Et donc, en fait, et après, donc, j'ai commencé à réexpliquer un petit peu quand même, parce que je connaissais l'origine, donc j'ai un peu commencé à expliquer ce que c'était Michaud. Et on m'a dit « Ah, bah, c'est mieux, t'aurais dû expliquer ça, en fait !» Et non, j'ai dû expliquer aussi que je n'étais pas professeur, que j'étais artiste, et que la place là de la création artistique était différente, que ça n'était pas une leçon sur Michaud. Et ça, ça a été, c'est vrai, une grande leçon, une grande prise de conscience. Et ce que tu disais, Mathieu, tout à l'heure, par rapport à la danse, effectivement, cette grammaire intéressante, hein, danser, il y a une technique du danse. On peut l'appeler grammaire, je trouve ça très intéressant, dans tous les paramètres que tu citais tout à l'heure. Effectivement, c'est intéressant, cette grammaire de la danse. Mais pour moi, en langue des signes, pour moi, comment dire ? Comment trouver les... Pour moi, en langue des signes, il y a effectivement ces mêmes paramètres qui sont plutôt de l'ordre de l'orientation, du mouvement, de la configuration, de l'espace, de la ligne du temps, j'en parlais, qui est quand même toujours sur le corps. Et c'est aussi la position des yeux, la position des lèvres, alors qu'il n'y a pas forcément tout ça dans cette danse-là qui n'est pas constitutif, qui n'est pas sémantique, en fait. Il y a une vraie linguistique en langue des signes, une linguistique corporelle, je dirais, qui fait que c'est une parole, c'est une langue vraiment qu'on utilise comme parole. Alors que dans la forme dansée, c'est plus un langage, pour moi, effectivement, qui est entrelacé de tout ça, mais qui n'est pas forcément égal à une grammaire du corps, car pour moi, c'est... Après, c'est vraiment une recherche qui peut aller très très loin, hein, dans la recherche du corps, mais voilà, c'est pour ça que j'avais envie de dire ça. Après, Nina, c'est une artiste qui est formidable, qui a choisi deux artistes, une artiste sourde et une artiste entendante, certes, mais dont la langue des signes est la langue maternelle, donc évidemment, elle joue avec cette langue-là, par rapport au corps, sur le plateau, au croisement, en fait, du langage du corps et de la parole signée, qui est une vraie parole. Et ça, c'est une forme d'art, quand même, une forme d'art pur, cet entrelacement entre tous.
Je peux compléter ? Oui. C'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, que je fais faire... On a commencé à faire notre première résidence en faisant vraiment que des exercices pour, en fait, nous constituer une sorte de boîte à outils dans laquelle, en fait, on a nommé des choses et on s'est dit, OK, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, qu'est-ce que c'est ? On a passé beaucoup par l'écrit. Et donc, des exercices que je fais faire à des danseurs professionnels, voilà, quand on commence à aborder mon travail chorégraphique, parce qu'il y a des choses très spécifiques. Et j'ai proposé des choses à Lisa, qu'elle a compris tout de suite, notamment des choses, enfin voilà, que la BAN propose, et
Et je pense parce que, en fait, dans l'organisation de son cerveau, elle a déjà cette idée de comment spatialiser donc, la langue, donc c'est sa langue, mais du coup, elle la transpose directement dans le corps. C'est-à-dire qu'on travaille, par exemple, beaucoup avec le pointage. Par exemple, le regard. Je regarde, ensuite je pointe, ensuite j'y vais. Ou alors, juste je regarde où je vais. Et en fait, de cette déconstruction du mouvement, c'est-à-dire pas quelque chose d'automatique, c'est-à-dire, bah, je vais là-bas, je vais pointer, j'y vais. Non, elle arrive, mais très vite, à comprendre où elle doit regarder, ce qu'elle doit faire. Et en fait, je pense que c'est parce qu'elle a son cerveau, sa plasticité, c'est faite de telle sorte à ce qu'elle puisse comprendre cette forme de chorégraphique aussi, de spatialisation, qui est typique à la langue des signes. Et que moi, par exemple, quand j'essaie de signer, que je fais tout faux, genre je regarde, je fais pas bien les transferts, les machins, j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est extrêmement difficile. Et Lisa, en fait, du coup, elle apprend très très vite, et ça, on le transpose dans l'espace, et c'est très chorégraphique, donc on l'utilise, quoi. Donc ça, c'est des liens qu'on peut trouver entre la langue des signes et notre manière de composer la danse. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, Lisa, par rapport à ça, mais moi, j'étais très impressionnée. C'est typique, la reine par exemple, elle a un leitmotiv, elle pointe, elle regarde, elle décompense beaucoup en fait, le mouvement, le regard, les placements, mais c'est très très précis. En fait, quand tu regardes quelque chose dans l'espace, tu peux le faire apparaître. Même s'il n'est pas là, je le vois, et donc ensemble, on voit cette chose. Et la langue aussi, c'est ça, c'est faire apparaître dans l'espace signant des choses qui sont invisibles, mais que du coup, on peut partager. Et en danse, dans ma manière de travailler et que j'ai envie de partager avec les filles, on travaille beaucoup en écriture de plateau et c'est important que l'espace soit clair. C'est-à-dire, si je regarde ici, bah, je vais parler de Jennifer. Si je regarde ici, je vais parler de Mathieu. Et si je vais faire les transferts, et ben, il faut que ça soit très précis. Sinon, les personnes signantes ne vont pas comprendre. Et en danse, pareil. Donc, si on partage un même espace, on a d'ailleurs un damier, on a des... Voilà. Et en fait, les Sabrina et Lisa partagent le même espace où elles font apparaître des choses qui ne sont pas là. Mais comme elles sont très claires avec leur regard et avec comment elles vont se déplacer, en fait, elles créent un espace réel, en fait. Même s'il n'est pas visible et concret, quoi.
C'est vrai que je voulais rajouter un peu sur la langue des signes, sur la poésie de Michaud. Que c'est un peu, c'est vrai que ce soit la danse ou l'art, je sais pas, pictural, etc. Est-ce qu'il faut toujours comprendre en fait ? Est-ce qu'il faut toujours être d'accord ? Non, c'est pas ça. Chacun a sa représentation, chacun a son vécu, chacun a son voilà. L'art, c'est ça en fait. Et c'est comme en langue des signes aussi. En langue des signes, mais évidemment, quand on écrit, il faut comprendre, c'est clair, etc. Mais la langue des signes dans l'art, voilà, c'est une interprétation libre. Donc en tant que comédienne, en tant que danseuse, c'est un choix en fait. Et c'est vrai que, est-ce que je dois m'adapter à vous ? Non, c'est mon art aussi, je suis libre là-dedans. Voilà ce que je voulais rajouter.
Oui, c'est vrai que dans le spectacle, il y a une histoire voilà, qui nous sert de base, hein, qu'on partage, mais en fait, on s'intéresse pas, enfin, on ne tient pas à ce que le public comprenne l'histoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils vivent une expérience. Avec les filles, en fait. Et c'est ça, elles vivent des expériences ensemble, des aventures, et c'est une expérience qu'elles vivent dans leur corps, en fait. Il leur arrive des choses, et physiquement, et ça, je pense que c'est quelque chose de propre à la danse, c'est que ça transforme le corps, c'est que ça nous fait vivre des choses, et c'est ça que j'ai envie de partager avec les enfants dans ce spectacle. C'est pas forcément que tout le monde comprenne l'histoire, ça, on s'en fout, en fait. Mais c'est qui ? Voilà, il leur arrive des choses, quoi, et elles vivent des choses ensemble.
Non, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, par rapport à la danse ou à la musique, souvent, les entendants, ils s'imaginent que les sourds, ils n'y ont pas accès, qu'ils ne peuvent pas danser ou qu'ils ne s'intéressent pas à la musique. Or, c'est complètement faux. Et ce que tu dis, j'aime beaucoup, quand tu dis qu'elle comprend tout, bah oui, elle comprend tout parce qu'ils ont un rapport au monde et ça, ils l'apportent aussi dans la création, le rapport au monde, ce rapport sur le visuel, ils regardent le monde d'une autre manière et c'est un enrichissement. Et la musique, eh ben, oui, on la ressent différemment, mais on la ressent quand même. Et oui, on peut danser, et oui, on peut chanter, et voilà. Et ouvrir cette porte, c'est hyper important. Par contre, les sourds, ils ont des difficultés à avoir accès aux formations. Ça, c'est important aussi, si j'en profite pour le dire, parce que c'est pas normal. Voilà.
Il faut le dire, c'est très important. Ça, enfin, on peut prendre encore 5 petites minutes pour parler aussi de ce terrain d'entente entre danse et langue des signes. plus globalement aussi entre culture sourde et culture entendante sur le, dans l'espace des institutions. Comment, comment on se fait accueil les uns aux autres. Donc c'est évidemment votre combat quotidien, je suppose. C'est les bienfaits de la programmation prochaine de l'Atelier de Paris. Mais est-ce que, de ce point de vue-là, il y a pour vous des choses encore qui manquent cruellement, des orientations à prendre? Là, je pose la question en toute naïveté, puisque je n'ai pas du tout toutes les informations pour savoir ce qu'il...
Alors, on a des partenaires quand même. Hein. À Toulouse, il y a l'ETU, l'école de théâtre universel. Donc, c'est la deuxième... universel, pardon, j'ai dit international, non, c'est universel. International, c'est IVT, pardon. Je me fais avoir. Donc oui, ETU, école de théâtre universel. Et donc, c'est la deuxième promo, là, qui va sortir. Donc, c'est deux ans de formation où on reprend les bases du théâtre, hein, mais c'est très large, hein, c'est tous les styles de théâtre. Et ils sont quand même étonnants, hein, ils sont très étonnants dans le paysage de formation. Donc on est partenaire avec eux parce qu'ils ont de la formation théorique, mais lorsqu'ils veulent faire des stages, on les accueille, nous, à IVT. On les accueille à IVT pour pratiquer, pour vraiment venir dans une pièce, dans une salle de théâtre. Alors après, ils peuvent aussi voir la production, ils peuvent voir la diffusion, ils peuvent voir la mise en scène, ils peuvent voir le jeu, la chorégraphie, tout ce qui est relations publiques. Ils peuvent voir tous les métiers propres au théâtre, parce qu'à IVT, il y a tout ça. Il y a tous ces métiers. Donc en fonction des profils, on les accueille en stage. Mais c'est vrai qu'à part le TU, en France, il n'y a rien. Il n'y a aucune formation accessible, il n'y a aucune école. Tout ce qu'on parle du conservatoire, on parle de tous ces lieux extraordinaires, ils ne peuvent pas, ils n'accueillent pas de personnes sourdes. On parle d'écoles avec des artistes. Je pense à une artiste qui s'appelle Tumette Léon, qui est une danseuse, une chorégraphe incroyable, qui travaille depuis très très longtemps, qui avait tellement envie de se former, qui a candidaté. C'est pas facile, hein, c'est pas facile pour tout le monde, hein, mais en plus, il fallait qu'elle se batte pour avoir des financements, pour avoir des interprètes de sa formation. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est complètement injuste. C'est injuste. Il faudrait que les personnes sourdes, si elles veulent entrer en formation, qu'elles soient accessibles, tout simplement. Elles ont le droit d'apprendre aussi, elles ont le droit d'avoir ce parcours, cette formation artistique.
Oui, alors IVT, donc c'est un lieu unique, mais longtemps on a été seul en fait, seul à produire des spectacles avec de la langue des signes. Et depuis la loi de 2005, il y a quand même eu un développement. Enfin voilà, il y a des compagnies qui sont nées à cette époque-là et voilà. Et donc depuis nous, notre projet c'est vraiment l'ouverture, le partage, la transmission. Enfin, on veut vraiment plus être tout seul, ça, il en est hors de question. Donc on travaille sur des réseaux aussi, sur sensibiliser les lieux, etc. Après, ce qui manque maintenant, c'est un engagement politique, parce que pour le moment, on crée des relations avec des individus qui vont inscrire la langue des signes, la culture sourde dans leur projet, sauf que quand ces individus quittent leur fonction, tout recommence à zéro. Donc c'est pour ça que là, maintenant, on est rendu à une étape où on considère qu'il faut vraiment un engagement politique pour que la langue des signes et la culture sourde intègrent le paysage de la culture, mais de manière pérenne dans les cahiers des charges des structures et pas liée à une individualité. Et que la langue des signes ne soit pas vue comme un outil d'accessibilité, mais vraiment comme une richesse à partager. Donc on fait de l'accompagnement comme on fait avec Nina, et on fait des formations, et voilà, plein de choses.
Merci. Nina... Nina fait du bateau.
Reste ici, reste avec nous.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça, Nina?
Non, pardon. Je voulais vous dire merci. Ouais, c'est grâce à vous qu'on peut avancer dans ce projet. Tout. Ça y est, on va pleurer. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est des rencontres et c'est franchement génial. J'ai plus de mots, j'ai pas de mots.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on peut finir, sur le plus de mots, mais sur un geste. Rendez-vous le 26 mars pour le Lapin et la Reine, la première. Puis le 2 avril, à l'Atelier de Paris pour My Petit Pogo, de Fabrice Ramalingam et le 9 avril pour la bande Alora de Gaël Bourges. Donc voilà le programme de ce temps jeune public LSF français. La prochaine émission de Transistor aura lieu le 11 avril. Cette fois, nous nous demanderons comment devenir arbre. Et je recevrai pour l'occasion Jacques Tassin, chercheur écologue au CIRAD à Montpellier, auteur de plusieurs livres sur la vie végétale, notamment le livre « Penser comme un arbre » et Daniel Linehan, danseur et chorégraphe, autour de la performance in situ « This Woods », une danse avec « Parmi les arbres » qui sera programmée le 29 mai dans le festival June Events. Un grand merci à toute l'équipe de la médiathèque de la Canopée de la Fontaine qui nous a accueillis ce soir pour cette rencontre, à l'équipe de l'Atelier de Paris, à celle de la web radio R22 Tout le Monde pour avoir permis cette rencontre. Bonsoir.